RCF. Bonjour à tous, bienvenue sur RCF pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, toujours en partenariat avec le quotidien La Croix. Quelle fut réellement notre Révolution française? Qui en ont été les principaux acteurs? Quelle a été la place de la violence dans l'accouchement de notre République? Et quelles en sont les traces dans notre vie politique aujourd'hui? À toutes ces questions, notre invité d'aujourd'hui répond de façon tout aussi magistrale que passionnante. Loris Chavanet, bonjour.
Bonjour Frédéric Mounier.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la Révolution et du Premier Empire, et vous publiez un livre, il faut le dire, absolument passionnant, que j'ai lu d'un bout à l'autre avec grand plaisir. Il s'intitule « Danton et Robespierre, le choc de la Révolution ». C'est publié chez Passé Composé. À travers ce livre, vous nous proposez non seulement une biographie croisée de ces deux grands acteurs majeurs de la Révolution, Danton et Robespierre, mais vous brossez un véritable portrait vivant de cette Révolution. Alors au-delà des deux frères ennemis que vous mettez en scène avec un grand talent, vous nous conduisez à nous interroger sur les sources, les objectifs et finalement les résultats de notre Révolution. Avec vous, nous allons donc remonter aux racines mêmes de cet épisode historique et peut-être même, ne l'excluons pas, de notre vie politique contemporaine.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, les racines du présent au cœur de la Révolution française et peut-être aux racines de notre vie politique actuelle avec l'historien Loris Chavanet qui signe aux éditions Passé Composé une biographie croisée absolument passionnante de Danton et de Robespierre intitulée « Danton et Robespierre, le choc de la Révolution ». Alors, Loris Chavanet, il faudrait d'abord, avant d'évoquer la Révolution et avant d'évoquer ses deux frères ennemis, donc Danton et Robespierre, il faudrait peut-être planter le décor. La France de 1789, à quoi ressemble-t-elle? Vous nous expliquez dans votre livre qu'elle est d'abord sous-peuplée, c'est vrai?
Eh bien, Danton et Robespierre ont en effet grandi dans un berceau qui est celui de l'Ancien Régime. Mmh. La monarchie absolue, un pays riche. Un pays très jeune, oui. Puisque 50% de la population a moins de 25 ans.
Un peu comme nos pays du tiers-monde d'aujourd'hui.
Voilà, mais sauf que voilà. Le débat politique avait peut-être davantage lieu. Ça dépend des pays du tiers-monde.
On va en parler. Donc un pays jeune, un pays riche, dites-vous.
Un pays riche, mais un État endetté.
Oui.
Endetté paradoxalement à cause de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique
qui nous a pas coûté beaucoup d'hommes mais qui nous a coûté beaucoup d'argent.
Nous l'avons financé. Oui. Lafayette y a brillé avec un grand nombre de jeunes aristocrates passionnés par les idées de la liberté qui sont passés d'Orient en Occident vers l'Amérique et ensuite inversement des États-Unis en France.
On reparlera de Lafayette tout à l'heure, qui est l'un des acteurs de votre livre aussi. Voilà, donc un pays riche, dites-vous, il faut peut-être le préciser parce que dans notre imaginaire collectif, on peut penser que la Révolution vient du fait que le pays était pauvre. C'est pas si vrai que ça, Loris Chavanet?
Non, le pays n'est pas pauvre. Le pays est bien sûr un des pays les plus riches du monde. Mmh. Louis XIV a sans doute laissé un gouffre fiscal, mais l'État était tout de même structuré au XVIIIe. Et puis il y a eu, n'oublions pas, des progrès techniques en médecine, en agriculture, formidables.
Il faut rappeler la vaccination. Qui a émergé à cette époque-là.
Exactement, à cette époque-là. Mmh. De même que le nombre d'enfants par femme mourant jeune a diminué énormément.
Mais la mortalité infantile reste importante puisque vous nous expliquez que la moitié des enfants meurent avant l'âge de 10 ans quand même.
Alors oui, c'est important, mais par contre on vit plus tard. L'espérance de vie a énormément reculé.
On vit jusqu'à quel âge?
Pour autant. Alors on vit en moyenne, l'espérance de vie c'est 25 ans.
D'accord.
Donc c'est pas énorme par rapport à aujourd'hui, mais comme il y avait une grande mortalité infantile, même si elle avait diminué, ça faisait que la moyenne était basse. Mais à partir de ceux qui vivent au-delà de 25 ans vivent relativement de plus en plus vieux.
Ceux qui survivent.
Voilà.
Ceux qui survivent à la mortalité infantile. Alors, du point de vue politique, la monarchie, écrivez-vous, Loris Chavanet, est une coquille vide, le régime est à l'agonie. Que s'est-il donc passé pour en arriver là?
Ben, d'abord, il a été difficile pour les monarques de succéder à Louis XIV. Mmh. Et puis Louis XIV, tant au niveau de la personnalité, parce qu'il avait une capacité d'incarnation de la monarchie, de droit divin, qui était à nul autre pareil, comme le voulait sa devise. De même que le pouvoir politique, c'était si centralisé que dès qu'on donne un peu de liberté, tout de suite, ceux qui en bénéficient, les parlementaires, par exemple, de la France d'Ancien Régime, ont voulu presque en abuser et augmenter leur pouvoir. Et donc, la France est un pays endetté, un pays fracturé intellectuellement, parce que la monarchie, en réalité, jamais ne soutient les idées neuves.
Alors, les idées neuves, parlons-en, les Lumières, les philosophes, ce que certains ont appelé le philosophisme.
Oui, l'encyclopédisme aussi, mais Voltaire, Rousseau, au début, étaient brûlés. Leurs ouvrages étaient censurés et brûlés sur la place publique, tandis que le peuple de Paris leur faisait des louanges, des éloges. Et c'est à Paris qu'était le véritable pouvoir, parce que c'est là qu'est l'esprit français, littéraire, philosophique, l'esprit de liberté et de plaisir aussi.
Et de plaisir. Peut-on dire que la monarchie, en cette année 1789, début 89, la monarchie est rongée? Elle est fragile.
Louis XVI est assis sur un trône branque-ballant. Pourtant, cela ne se voit pas. Il est d'argile, mais on a l'impression qu'il est de marbre. Il est de marbre, il paraît de marbre, parce qu'il s'appuie sur une légitimité millénaire.
C'est ça.
Et donc, c'est fort, tout de même, la légitimité.
Sur une vision religieuse de l'autorité politique.
Qui va durer, ensuite.
Et que la majorité de la population partage.
Bien sûr, absolument. Oui. Les campagnes seront jamais favorables aux mesures anticatholiques de la Révolution française. Pour autant, en 1789, Louis XVI est aimé du peuple. Et quand il convoque les états généraux, on pense dans certains milieux que les idées nouvelles, la réforme va advenir. Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas une réforme, sire, c'est une révolution.
C'est une révolution. Alors on va y venir. Juste un dernier point de décor avant d'aborder vos deux héros, Danton et Robespierre, Loris Chavanet. On a parlé de la mortalité infantile et vous écrivez que dans ce pays, la France de 89, chacun de nos aïeux nourrisse une relation étroite et intime avec la mort. C'est important de le préciser.
C'est très important, d'autant plus que nos personnages, Danton, Robespierre, vont être orphelins de père ou de mère. En bas âge, ils vont perdre leurs parents. De même qu'ils perdent un grand nombre de frères et sœurs. Robespierre sera très atteint par la mort de sa jeune sœur Henriette, alors qu'il était lui-même jeune. On s'attache et puis... là où le cœur se fixe, le bonheur disparaît. Et donc cette France connaît aussi de nombreuses maladies, des épidémies terribles, mais il n'y a pas la guerre.
Voilà.
La France vit dans un pays en paix. Et c'est très important.
Ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps.
Ce qu'on n'avait pas vu depuis effectivement les guerres de Louis XV, qui étaient coûteuses et en plus perdues. Louis XVI fait une guerre peut-être coûteuse, mais loin. Et gagné.
Voilà.
Donc l'honneur contre l'anglais est sauvé.
Voilà donc le paysage brossé de cette France politique, cette France humaine, démographique, en 1789. Alors venons-en à Danton et Robespierre, vos deux héros, Loris Chavanet. Décrivez-nous leur milieu d'origine. Ils partagent le même berceau, écrivez-vous.
Oui, ils sont de la roture, comme on dit, c'est-à-dire du tiers-état, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nobles, ni clercs. Ils appartiennent à la petite bourgeoisie provinciale. Robespierre, lui, dans le Nord, récemment devenu français, à Arras, dans l'Artois. Et Danton, lui, dans ce qu'on appelle la Champagne pouilleuse, tant elle est un peu fade, terreuse, sablonneuse, à près d'Arcy-sur-Aube. Et ils sont de la même génération. Robespierre né en 58, Danton en 59. Ils ont 30 ans en 1789.
Ils sont jeunes.
Ils sont jeunes, jeunes, très jeunes. Ils vont mourir aussi jeunes, bien que expérimentés. Mmh. Ils sont avocats à partir de 1781-82.
Alors c'est ça, ce ne sont pas tout à fait des pauvres. Ils ne sont pas vraiment, ils ne sont pas du tout nobles, mais ils sont un peu bourgeois quand même. Ils sont quand même du bon côté, non ?
Bon, ils ont la chance d'être de deux familles de juristes. Mmh. Robespierre, depuis plus de 100 ans, la famille se rapproche, grignote pour se rapprocher de la petite aristocratie.
Voilà.
Et se fait d'ailleurs appeler de Robespierre, la particule étant essentielle en ce temps.
Ce à quoi Maximilien, à ses débuts, était attaché.
Très attaché. Puis, petit à petit, il va l'abandonner. Il sent que le vent tourne. Il a une présence d'esprit et il sent le vent social aussi qui va vers la condamnation de tout ce qui incarne l'aristocratie. Et Danton, de même, se fait appeler au début Danton, le sieur Danton, D'apostrophe. A-N-T-O-N. Et cela,
il y a une petite tentation quand même, une petite tentation, comme on connaît dans la bourgeoisie, d'accéder à ce qui était à l'époque le niveau supérieur. Il faut dire que la noblesse monopolisait un certain nombre de fonctions, que l'ascenseur social n'existait pas vraiment et que le rang, la naissance primait le talent. Le mérite ne jouait un rôle que très très faible, Laurie Chavanet.
Eh bien, c'est un peu l'ordre social des privilégiés qui est ainsi inscrit dans le marbre de la monarchie capétienne, vieillissante, mais pourtant continuée. D'ailleurs, quand on va appeler les états généraux, cela fait depuis Henri IV qu'on n'a pas rappelé les états généraux. C'est très vieux. Bref, il y a un vent de modernité qui souffle en faveur des talents, d'un libéralisme aussi politique, une circulation des idées, des opinions qui existent dans toute l'Europe. Et la France devrait être à la pointe de ce combat des idées qui est vraiment une guerre intellectuelle qui fait rage à cette époque. Mais la France reste légèrement en retrait de ces conquêtes de la liberté. L'Angleterre est davantage assise sur davantage de séparation des pouvoirs qu'en France.
Et une mobilité sociale, peut-être.
Une mobilité sociale en France, très importante, parce que, c'est vrai, c'est une tradition française, tout le monde monte à Paris. Alors, on dit monter à Paris, mais Danton, Robespierre vont devenir des hommes de pouvoir, des hommes d'histoire, grâce à leur arrivée à Paris, pour s'emparer des places. Parce que la Révolution va non seulement permettre la liberté des emplois, mais, grâce à la fin des privilèges, mais aussi va ouvrir des postes. Et ça va être la ruée sur les postes. Danton et Robespierre vont vouloir s'emparer.
Voilà, ces postes qui étaient jusque-là réservés à la noblesse.
Réservés à la noblesse, notamment dans l'armée. Les officiers sont tous nobles.
Et en dessous, ça bloque. C'est-à-dire que les sous-officiers ne peuvent pas devenir officiers.
C'est-à-dire que le talent au feu, à la mitraille, compte moins que la naissance. Alors, qu'est-ce que c'est que le talent, le courage physique d'un soldat ? Bon, il y a des cas où on arrive à grimper quand on est roturier, mais c'est si rare qu'au final, la jalousie règne.
Donc voilà le tableau général du point de vue social et politique de cette époque. Donc, nos deux héros, Danton et Robespierre, montent à Paris, vous l'avez dit, mais ils n'y montent pas de la même façon. Robespierre est en quelque sorte interné au collège Louis-le-Grand, dans tous les sens du terme, tandis que Danton vit une vie sociale très active, pour le moins, si je vous ai bien lu, Laurie Chavanet.
Disons que Robespierre a enchaîné peine sur peine, triple peine, décès de sa mère à l'âge de 6 ans, abandon par son père dans la foulée, et comme on ne sait pas quoi faire de lui, il obtient une bourse en plus par l'abbé de Saint-Vaast à Arras, et il est envoyé au collège Louis-le-Grand où il va rester interne pendant 12 années.
Et à l'époque, être interne, c'est vraiment être interné. C'est une forme d'internement.
Disons que ça rigolait pas dans ce collège, à la tradition de jésuitique, bien qu'ils aient été chassés de France. Il y a toujours cet ordre, ce côté hiératique, hyper classique, voire carcéral, entre ces vieux murs, alors que Danton, règne dans sa famille, sa mère s'est remariée, il est heureux avec son beau-père, le sieur Ricordin, qui le chérit, et ils se chérissent tous les deux, Danton. Et dans une école très moderne pour l'époque, une pension, mais une pension où l'on enseigne la philosophie, où où il y a des cours d'éducation physique et sportive, ce que Robespierre n'aura jamais. Oui. Et Danton va quitter Troyes, il va prendre une voiture parce que son oncle est chargé du transport de la voiture publique entre Troyes et Reims.
L'occasion fait le larron.
Entre Reims et Paris. Et Danton va monter dans cette voiture sans un sou en poche. Il va débarquer à Paris et il va devoir conquérir Paris comme une espèce de Julien Sorel qui se rue vers le pouvoir, vers les richesses. Ouais. C'est un ambitieux, Danton. Hein.
C'est un vorace. Mais vous écrivez que nous deux héros, Danton et Robespierre, sont l'un et l'autre habillés d'un rêve de reconnaissance.
Mais
ils veulent aller plus loin, plus haut.
Mais disons qu'il y a, ils partagent cette ambition de la grandeur, mais d'être plus grand que ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de leur état. Danton, lui, part à la conquête d'une puissance, d'une existence sociale, une reconnaissance économique. Et il va parvenir tout de même à s'enrichir avant la Révolution. Il sera un avocat, bon, bien qu'il ait acheté son diplôme à Reims.
Il est un peu homme d'affaires aussi, si je vous ai bien lu, Loris Chavanet.
C'est un homme d'affaires.
Il fait du business, comme on dirait aujourd'hui.
Oui, il sait manier l'argent et les femmes. C'est grâce, c'est pour ça que je parlais de Julien Sorel, c'est grâce à son mariage avec la fille et l'héritier d'un des cafés qui marche le mieux à Paris, le café de l'école, juste en face du Pont Neuf, sur la rive droite, qu'il va se marier avec cette jeune fille charpentée, d'ailleurs elle s'appelle Charpentier, de son état.
Et bien dotée, avec un bon patrimoine.
Et grâce à cette dot, il va pouvoir acquérir la charge d'officier, d'avocat au conseil du roi.
Voilà, donc l'un et l'autre, Danton et Robespierre, veulent monter plus haut, plus loin, mais pas tout à fait de la même façon. D'abord, physiquement, ils n'ont pas du tout la même stature. Danton, écrivez-vous, mesure plus d'1m80, alors que Robespierre s'en tient à 1m60. Et les contemporains ont dit que Danton a une tête de dogue et Robespierre une tête de chat. C'est vrai, Loris Chavanet?
Mais vous savez, à l'époque, on avait encore l'art du portrait. Oui. J'ai envie de dire en peinture comme en littérature. Et j'ai essayé de restituer un peu ces visages, ces corpulences, ce teint maladif chez Robespierre, ce côté bulldog, mais aussi...
Truculent chez Danton.
Truculent, aimant la bonne chair, aimant le beau sexe, aimant les galéjades aussi. Quelqu'un qui a travaillé son corps et qui est marqué au visage. Tous les deux sont marqués par la petite vérole.
Voilà, qui était une maladie courante à l'époque.
Danton a failli en mourir. Donc ça l'a conforté dans l'idée de toujours se surpasser physiquement. Et il sera cette espèce de Golgoth, de Goliath, on pourrait dire, à la tribune, dans le Paris révolutionnaire. Et Danton a même le visage marqué tant et si bien que sa lèvre supérieure est quasiment arrachée du côté gauche, parce qu'il aurait reçu un coup de corne à la naissance. Robespierre, lui, rien de tout ça dans la cour de Louis le Grand. Il ne partage même pas les jeux de récréation de ses amis.
Tout dans la tête, Robespierre.
C'est l'homme de lettres, c'est l'intellectuel, ce sera l'idéologue. Robespierre est tout de feu pour son amour de jeunesse qui est Rousseau.
Oui, alors une dernière divergence. Vous avez dit que Danton est un homme à femme. Robespierre, pas du tout. Ni femme, ni enfant.
Robespierre ne se mariera jamais, n'aura jamais d'enfant. Disons que son seul amour, c'est sa sœur, et encore il la maltraite. Sa sœur Charlotte, qui écrira de magnifiques mémoires pour le défendre. Mais effectivement, Robespierre, bon, par contre, il badine, il séduit, il a une correspondance, et notamment avec une femme à Arras, on a des doutes, on se dit qu'il était fiancé. Mais celle-ci, dès qu'il part à Paris en 89, se marie avec un autre.
C'est un fiancé tout platonique pour le...
Voilà. Voilà. Mais Robespierre exerce ses charmes par la plume, alors que Danton, lui, c'est par l'oralité qu'il séduit. C'est ainsi qu'il séduira sa Gabrielle, mais d'autres femmes, Madame de Staël, quand elle se rend au théâtre au début de la Révolution, elle le croise dans une loge au bras de trois femmes. Bon, on imagine que ce sont des femmes de mauvaise vertu, tandis que Robespierre s'échine à chercher la perfection.
Voilà, et il s'échinera à chercher la perfection, on le verra, juste jusqu'à verser le sang et puis verser son propre sang. Alors, donc vous l'écrivez, Loris Chavanet, tout semblait unir ces deux hommes. On a vu qu'ils étaient l'un et l'autre avocats, membres de la petite bourgeoisie provinciale. On va voir qu'ils sont tous les deux révolutionnaires, patriotes, démocrates, républicains. Tous deux figureront parmi les premiers élus de Paris. Ils sont du même parti, le parti de la montagne, c'est-à-dire le parti qui est tout en haut de l'Assemblée. S'il fallait les qualifier en termes politiques d'aujourd'hui, comment les qualifieriez-vous, Loris Chavanet ?
Assurément, ce seraient des démocrates,
oui.
Des hommes essentiellement de gauche, voire pour Robespierre un homme d'extrême gauche, parce qu'il a une espèce de populisme social, il a une démagogie où il insiste énormément sur le déjà une espèce de conception de lutte des classes. Il oppose pendant la Révolution non plus les aristocrates de l'Ancien Régime au peuple, mais désormais l'aristocratie des riches, les bourgeois, il les appelle ainsi hein, déjà. Qui verse dans une inégalité toute économique. Et Robespierre aura toujours à cœur de défendre le petit peuple. Il le dit, c'est d'ailleurs le petit peuple ouvrier qu'il a élu en 1789 pour aller siéger aux États généraux. Donc oui, ce sont des hommes essentiellement de gauche.
Voire d'extrême gauche quand même.
Voire d'extrême gauche pour Robespierre encore qu'il a été récupéré hein, par toute une tradition de droite, voire d'extrême droite. Parce qu'il incarne un catholicisme social. Et c'est ainsi
Robespierre.
Qu'il a... Robespierre, absolument. Le 19e siècle a reconnu en Robespierre une espèce de Christ de gauche.
Christ de gauche.
Oui, le Buchèze, Roux, Louis Blanc étaient...
Parce qu'il était partisan de l'être suprême, c'est ça ?
Partisan, en tout cas, il n'était pas athée.
Il n'était pas athée, voilà.
Il était...
Plutôt déiste, peut-on dire.
Protecteur des religieux sous la Révolution.
Enfin, il a laissé faire quand même beaucoup de choses.
Il a laissé faire des choses, mais...
Il a laissé faire Fouché, il a laissé faire beaucoup de choses, Fouché.
Non, au contraire, Fouché, il l'a même rappelé à la veille du 9 Thermidor, en lui rappelant... pour le sermonner, Robespierre avait, c'est vrai, un esprit prêtre. Mmh. Et cela peut séduire aussi toute une frange de la population depuis longtemps. Mais c'est Danton, l'homme davantage de la laïcité, qui serait plus un modéré de centre-gauche ou du centre, Danton, parce qu'il a une ouverture d'esprit, une présence d'esprit plus souple, un esprit plus souple, qui voit toujours dans la politique l'esprit de compromis entre des oppositions.
Le parallèle que certains font entre Robespierre et Jean-Luc Mélenchon, vous y souscrivez, Loris Chavanet ?
Ben, je pense que Jean-Luc Mélenchon y souscrit en partie avec Alexis Corbière, qui se voit bien dans ses ouvrages en flatteur de Robespierre, et c'est son droit. Jean-Luc Mélenchon, il est vrai, prône en même temps que toute une des contemporains politiques une espèce de vertu. Il a écrit d'ailleurs un livre sur ce sujet-là, Jean-Luc Mélenchon.
Qui est un maître mot pour Robespierre, la vertu.
Mais c'est la vertu qui est même pour Montesquieu, déjà. La République, quel est le socle de la République, de la démocratie ? C'est la vertu. Parce que c'est ce qui permet l'égalité morale aussi entre les individus, la recherche d'une pureté, d'un respect mutuel, mais aussi de la part des représentants, une exigence de transparence, d'exemplarité des représentants. Et cette notion de transparence existe aujourd'hui. Cette moralisation de la vie publique que nous connaissons aujourd'hui de plus en plus, avec ses exigences, ses contraintes, a été inventée au temps de la Révolution française.
Alors, on va y revenir dans un instant, parce que cette question de la pureté, de la transparence, pose évidemment la question du seuil, et puis la question de la délation, la question de la dénonciation, qui sont des questions qui sont apparues très très vivement, notamment sous la Terreur, qu'on va aborder dans un instant. Mais d'abord, je vous propose une première pause sonore, Loris Chavanet, autour de votre livre Danton et Robespierre, Le choc de la Révolution, aux éditions Passé Composé. Nous allons écouter la bande-annonce du fameux film de Andrzej Wajda, sorti en 1983, qui s'intitulait Danton, et on va écouter la voix de Gérard Depardieu qui jouait Danton.
J'exclus du débat l'accusé Danton.
Tu la sens, hein? Il y a cette tête, c'est toi qui seras obligé de la couper.
Excuse-moi. Tous les deux, nous nous sommes trompés.
Maxime,
Tu dois maintenant instaurer la dictature en France.
Tu veux faire le bonheur de la rue? Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien! Regarde-toi! Tu vois pas de vin, t'as les cheveux poudrés. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Et pareil, t'as jamais baisé une femme, alors? Au nom de qui tu parles? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme!
Ah! Soldats! Cette blessure! Voyez, tombe sur ma poitrine!
Voilà, c'est un extrait de la bande-annonce du film de Andrzej Wajda, Danton, en 1983. On reconnaît la voix de Gérard Depardieu qui joue Danton, qui s'adresse à Robespierre. Vous avez retrouvé dans ce film, Loris Chavanet, les tensions entre vos deux héros?
Bon, Depardieu est magnifique dans ce rôle, où justement il est jeune quand il joue ce rôle, alors qu'en général dans les films de la Révolution, les personnages ont tous 10 ans, 20, 15 ans de plus que l'âge réel des personnages.
Mais rappelez-le, Danton avait quel âge?
Danton avait 30 ans en 1789, Robespierre 31. Voilà. D'ailleurs, il a 31 ans le lendemain de la réunion première des États généraux. Mais j'ai une anecdote à vous livrer.
Allez-y.
C'est que dans ce film, il y a la fameuse scène que l'on entend là du souper, de la tentative de réconciliation entre Danton et Robespierre, et Depardieu, donc Danton, prend la main de Robespierre et la met sur sa nuque en lui disant « Tu la sens, tu le sens mon cou, tu veux le trancher, tu veux faire jaillir le sang, touche la chair, rends-toi compte, prends conscience de la chair. » Et en fait, j'ai appris que Depardieu le raconte dans une interview, qu'en réalité c'était un mouvement d'improvisation de sa part. Or, c'est là où le génie arrive, j'ai trouvé des témoignages, un témoignage où Danton va retrouver un de ses collègues à la convention qui a peur. Et Danton prend la tête de ce collègue et se met à la tourner comme elle a vissé sur sa tête, comme ça, elle a secoué, et il lui dit « Rassure-toi, ta tête est plus ancrée que la mienne. » Donc il y a ce côté charnel.
Et, physique, très physique.
Très physique, et puis, vous savez, dans ce film, on entend aussi Danton dire que, bon, moquer le manque de virilité de Robespierre, mais il est vrai que Danton aurait dit, et ça c'est attesté par des témoignages encore, qu'il pourrait prêter ses parties à Robespierre, entre guillemets, entre parenthèses, et cela a véritablement été prononcé, de même que, il y a une autre anecdote, Danton aurait qualifié de Robespierre d'homme incapable de monter à cheval et même qu'il ne savait pas faire cuire un œuf. Donc ce sont des expressions.
C'était un véritable intellectuel, disons. En tout cas, vous dites dans votre livre que Robespierre n'était pas homosexuel.
Non, il n'était certainement pas homosexuel. On ne sait pas, le refouler est sans preuve. Donc,
évidemment.
Dans le doute, on dit qu'on en conclut qu'il aimait les femmes, mais d'ailleurs, il ne l'aimait pas pour leur beauté extérieure, mais pour leur beauté, la beauté de l'âme. C'était d'ailleurs, il écrit une lettre à une fille délicieusement belle, et il lui écrit « Méfiez-vous de votre beauté que tout le monde vous sert, parce que vous devez uniquement vous attacher à la beauté intérieure. » Mais du coup, il s'en prend presque à elle, il l'accuse d'être belle.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Loris Chavanet, à l'action politique de Danton et Robespierre, qui ont été les deux pères de la Révolution, pour reprendre le titre de l'un de vos chapitres. À travers les différents événements, c'est-à-dire le 10 août 1792, la prise d'assaut par le peuple des Tuileries, à travers les massacres de septembre 1793, à travers la fuite à Varennes du monarque qui a été désacralisé à ce moment-là. Et comment peut-on caractériser à la fois les convergences et les divergences politiques de Danton et de Robespierre, Loris Chavanet?
Bon, essentiellement, au début de la Révolution, il y a convergence de vues.
Ouais.
Convergence
plus de démocratie,
d'opinion,
plus de liberté.
Ils constituent un tandem, bien qu'ils aient chacun un poids, une manière différente de faire la Révolution. Robespierre comme député, comme un homme de l'écrit, un intellectuel qui défend des idées abstraites. De même que Danton, de l'autre côté, est un perturbateur populaire, un agitateur des rues. Mais tous les deux sont complémentaires quand ils attaquent, quand ils constituent un duo. qui va devenir duel.
Donc ils attaquent la monarchie, ils attaquent l'aristocratie, la noblesse. Bon, d'abord, jusque-là, tout va bien.
Oui. D'abord, ils détruisent les anciennes institutions. Mm-hmm. Le monarque absolu est détrôné. Il est tout juste, on lui donne un droit de veto, mais il ne peut pas réellement l'exercer. Et Louis XVI, effectivement, est comme prisonnier dans son palais des Tuileries. Mm-hmm. Et donc, il va fuir. Les aristocrates n'existent plus. Les titres sont supprimés, mais très tôt, dès 89. Et Danton et Robespierre vont donc unir leurs forces. Une fois pourtant que la révolution est faite, actée avec une constitution, avec une déclaration des droits de l'homme, une séparation des pouvoirs, la garantie de la liberté individuelle de la presse, ils vont vouloir faire chuter ce régime constitutionnel.
Et pourquoi ? Et pourquoi donc ?
Premièrement, parce que il y a une lutte politique interne qui fait rage entre différents courants, le courant des conservateurs, comme par exemple Barnave, qui aura cette malheureuse phrase, qui est toujours aussi malheureuse presque aujourd'hui, quand il dit « la révolution est terminée ».
Voilà, mais on aurait pu s'en tenir à une forme de monarchie constitutionnelle.
Oui, mais le problème, c'est que la Révolution française a ceci de particulier par rapport à la Révolution anglaise, par exemple, qu'elle n'est pas uniquement juridique. Elle est aussi culturelle, philosophique et religieuse.
Et sociale aussi.
Et donc énormément sociale, et Robespierre Danton pousse en ce sens.
Donc il faut aller plus loin.
Il faut toujours aller plus loin.
Vers une démocratie parlementaire ou encore autre chose ?
Alors, autre chose, pour l'instant, au temps de la Révolution française, avec la guerre qui est déclarée par le roi lui-même.
Aux frontières,
à l'Autriche,
la patrie en danger,
à la Prusse. Mmh. Puis ensuite, ce sont les forces espagnoles, anglaises qui entrent dans la bataille. Bon, bref, la France est en guerre contre l'Europe entière. Mmh. Tout comme Napoléon sera en guerre plus tard contre l'Europe entière. La Révolution l'est déjà. Mmh. Et donc, dans ce magma bouillonnant, où la révolution est en danger, ses conquêtes.
Il fallait continuer.
Il fallait aussi radicaliser le peuple.
Vous prononcez le maître mot. Radicaliser, c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. On parle beaucoup de radicalité. Les premières réformes ne pouvaient se suffire à elles-mêmes. Il fallait aller plus loin, quitte à verser le sang peut-être. Laurice Chavanet.
La peur, c'est-à-dire la terreur, outil de gouvernement depuis toujours, depuis l'Antiquité. C'est pratiqué pour assurer l'autorité d'un gouvernement, d'un régime, d'une classe qui se maintient au pouvoir. Et effectivement, les révolutionnaires sont conscients que s'ils n'exercent pas la terreur, ils vont être vaincus, et être vaincus pour eux, à cette époque, c'est être exécuté. Ils vont être envoyés à l'échafaud comme régicides.
Donc ils préfèrent envoyer les autres, au besoin ceux qui ont fait la révolution avec eux, à l'échafaud.
Exactement, parce que il n'y a pas encore cette vision d'un pluralisme parlementaire, démocratique, moderne. Il y a une représentation moniste du pouvoir.
C'est
il y a
tout
pas
ou
de
rien,
parti.
C'est tout ou rien, c'est ça ?
Tout ou rien, ça veut dire c'est l'unanimité ou rien. C'est l'unanimité ou la mort. Or, les Jacobins sont une machine.
C'est absolument tragique.
C'est tragique, mais ils se sont beaucoup inspirés aussi de l'Ancien Régime. Oui. Comme dit François Furet, il y a continuation d'une forme de sacralité, c'est-à-dire l'impossibilité de contester une vérité absolue. Mmh. Et sous l'Ancien Régime, la vérité, elle était divine, elle était monarchique, mais ensuite la souveraineté, elle est populaire. Et on ne peut pas heurter la souveraineté populaire. Donc, c'est celui qui va avoir les mots de la radicalité populaire à la bouche qui impose la légitimité révolutionnaire contre la légalité. Alors, c'est un peu complexe.
Oui,
ça veut dire que le plus radical est le plus révolutionnaire, donc l'ami du peuple.
Quitte à verser le sang
pour unifier les Français contre un adversaire extérieur, mais aussi intérieur. Car il y a la Vendée qui se soulève, il y a des excès de la contre-révolution à Lyon ou ailleurs, et Paris, parce qu'à l'époque, le problème aussi de cette France révolutionnaire, c'est que c'est Paris qui fait la révolution. Et c'est Paris qui se radicalise le plus contre des villes qui veulent plus de respiration.
Mais ce que vous décrivez là, Laurice Chavanet, à ce stade de notre Révolution française, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une dictature. C'est-à-dire, c'est l'abstention des libertés individuelles au nom de la liberté, et c'est le règne de la peur et le règne de la terreur.
C'est la dictature de salut public,
c'est ça,
assumée par le gouvernement, qui est conscient de l'écart abyssal qu'il y a entre la proclamation des droits de l'homme et l'exercice de la terreur. D'ailleurs, terreur qui est revendiquée hein, comme un outil de pouvoir, comme le dit Robespierre dans plusieurs de ses discours. Mais effectivement, le gouvernement révolutionnaire est décrété, c'est-à-dire que la Constitution et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Et voilà. D'ailleurs, aux Jacobins, ils vont même mettre les tables des droits de l'homme dans un tabernacle pour bien signifier que désormais, c'est le droit de la guerre qui règne.
C'est ça. Alors, dans ce contexte extrêmement difficile, extrêmement violent, où le sang coule à flot, où l'exigence de la vertu, de la pureté, de la transparence permet en fait de faire fonctionner un régime de terreur, comment se situent vos deux acteurs, Loris Chavanet, comment se situent Danton et Robespierre? C'est là où ils commencent à diverger.
Alors effectivement, il y a une rupture entre Danton et Robespierre qu'on ne voyait pas venir. Mais leur différence de caractère et de vie privée aussi était de nature à les opposer tôt ou tard. Alors, c'est arrivé, cette opposition, au moment où Robespierre et les Jacobins livrent une guerre à l'athéisme et donc à l'immoralisme. Mmh. Et en fait, ils vont taper à la fois sur les hébertistes qui sont des athéistes, des christianisateurs et ensuite les comités dont Robespierre vont taper sur ce qu'on va appeler les indulgents, mais ils vont être accusés ces indulgents, c'est-à-dire Camille Desmoulins, les dantonistes, Danton, Fabre d'Églantine, ils vont être accusés d'être des corrompus.
Des tièdes ou des corrompus?
Les deux.
Parce
que l'accusation de corruption en réalité existe depuis pour toutes les oppositions. Les Girondins ont été accusés d'être des bourgeois corrompus. Les hébertistes, des corrompus. Danton, Robespierre le dit, serait une idole pourrie. Et de même...
Tout ce petit monde, je vous interromps une seconde, tout ce petit monde, Danton et Robespierre, tous ensemble, ont envoyé à l'échafaud les Girondins, c'est-à-dire en quelque sorte les centristes, en quelque sorte. Et maintenant ils se retrouvent face à face, c'est bien ça?
Eh bien, il se retrouve face à face parce que Danton a quitté le gouvernement en juillet 1793, au moment où Robespierre y entre. Ils ne sont pas ensemble au comité en même temps. Mmh. Et donc, Danton part à la pêche, sur ses terres en Champagne.
C'est son côté dilettante et jouisseur.
Il veut pas voir le sang des Girondins être versé parce qu'il a gouverné avec eux. Ses amis. Il a essayé d'en sauver certains. Mais il marche à l'échafaud, ces Girondins, en chantant la Marseillaise. Et Robespierre œuvre pour que la Révolution ne se contente pas d'emprisonner, mais aussi d'éliminer physiquement ses adversaires.
Alors que Danton est plus tiède là-dessus, c'est la raison pour laquelle il s'exile en quelque sorte. Il retourne dans sa campagne d'origine.
Peut-être a-t-il été pris d'une espèce de sentiment de culpabilité, parce qu'il a fait verser le sang, Danton.
Mais oui, largement.
Le 10 août 92, les massacres de septembre, on ne sait pas quels sont les
actes. Il a laissé faire.
Est-ce qu'il aurait pu s'opposer?
Il a laissé faire.
Ah, c'était un bain de sang abominable. Plusieurs journées, Paris a été livré au carnage. Et Danton, ministre de la Justice, est considéré comme responsable, mais peut-être pas coupable, si l'on fait ce jeu de mots. Danton, en tout cas, n'a pas envoyé l'armée chasser les égorgeurs.
Les égorgeurs. On est sur le fil du rasoir, si j'ose dire, mauvais jeu de mots. On va plonger dans cette ambiance sonore, si vous voulez bien, Loris Chavanet. On va retrouver le film de Andrzej Wajda. Et on va écouter peut-être ce qui s'est passé à la Convention à la suite de l'annonce de l'arrestation de Danton. On va peut-être avoir une idée de l'ambiance sonore au sein de la Convention.
Il y a bien longtemps que la Convention n'a pas vu de telles flammes animer les débats ni une telle passion remuer les foules. En effet, la question est importante. En voici les termes. Allons-nous mettre certains individus au-dessus de la République?
À bas la terreur! À bas les communautés! Nous savons qui chasse le peuple, quelque part! Tu descends!
Le gendre exige qu'on fasse monter à la tribune les accusés.
Nous l'exigeons tous! Danton à la tribune!
Danton à la tribune!
Vous êtes tout à fait prêt à accorder à cet homme-là ce que vous avez refusé à d'autres hommes? Et selon quel principe? Est-ce que le gendre voudrait dire que Danton est un citoyen privilégié qui peut se placer au-dessus des lois?
L'homme du 10 août a quand même droit à quelques égards!
Nous l'exigeons tous! Danton à la tribune!
La République, c'est le peuple tout entier qui l'a édifié. Qui parmi nous pourrait avoir le front de dire « Le 10 août, c'est moi, rien que moi qui en suis l'âme. » Aucun mérite ne donne le droit à un prétendu privilège. C'est sûr, pour nous, les privilégiés n'existent pas.
Entendre un accusé n'est pas un privilège, ce n'est que justice.
Comment cela, justice ? Courtois, tu ne fais plus confiance au tribunal révolutionnaire, c'est bien ça ?
Le tribunal est irréprochable. Il a toute notre confiance.
Nous verrons bien si la Convention aura la force de faire passer Danton devant la justice ou si, au contraire, elle contestera le rapport établi par Saint-Just.
Voilà, et ça va mal se terminer puisque Danton va, quelques jours après, succomber sous l'échafaud. Donc c'était un extrait du film de Andrzej Wajda, Danton, et on entendait donc la voix de Robespierre incarnée par Wojciech Psoniak. C'était en 1983. Alors, Isia Vanette, vous retrouvez l'ambiance que vous décrivez dans votre livre?
Alors, pour vos auditeurs, c'était le film de Robert Enrico, hein, je pense, la scène. Mais qu'importe.
Allez-y.
Je voulais juste dire que, effectivement, ce débat à la Convention nationale, c'est celui du 31 mars 1794, c'est-à-dire le lendemain de l'arrestation de Danton, qui s'est faite nuitamment. Tout a été organisé de main de maître par Robespierre et Saint-Just.
Et lui s'est laissé arrêter. Il a refusé de fuir à ce moment-là.
Et Danton a refusé de fuir. Il est présent à Paris. Il tempête au sein de la prison du Luxembourg. Aujourd'hui, le Sénat.
Le Sénat.
C'est là qu'il est emprisonné. Mais en tout cas, le débat dans le film est assez fidèle à la réalité. Bon, il y a quelques ajouts, mais il est vrai qu'il y a eu une fronde parlementaire pour s'indigner de l'arrestation de Danton. L'homme du 10 août, effectivement, celui qui a demandé la proclamation de la République, qui a demandé le calendrier républicain, qui a demandé l'abolition de l'esclavage. La chute de Danton, c'est la chute d'une des plus grandes figures de la Révolution.
Et Robespierre ne veut pas écouter.
Et Robespierre ne veut pas que Danton puisse se défendre au nom d'une égalité qui est tout à fait artificielle, hein, disons-le, à ce moment-là, parce que comme le peuple est souverain et la Convention représente le peuple, la Convention aurait très bien pu voter parce qu'elle est légitime, légale, un décret pour entendre Danton et les accuser.
Mais vous écrivez, Loris Chavanette, Paris et ses milliers de piques ont eu raison du jeu démocratique. C'est ça qui se passe à ce moment-là.
À ce moment-là, c'est moins cela qui se passe plutôt que l'exercice d'une dictature avec tout son schéma opaque, le travail de l'opacité par les comités. La chute de Danton est un chef-d'œuvre bureaucratique d'opacité.
Et d'arbitraire
par la suite.
Oui.
Parce que la Convention va voter l'accusation de Danton à l'unanimité.
Finalement
à l'unanimité. Oui. Mais par la suite, ce qui est arbitraire, c'est la manière dont le procès va avoir lieu. Les dantonistes sont 15 sur les bancs des accusés. Alors qu'il y a 3 dantonistes, 3-4 dantonistes. Ils ont été accolés à des malfrats de bas étage. De même que les jurés ont été triés, sélectionnés pour que ce soit des purs.
C'est vraiment la dictature.
C'est la dictature.
C'est le procès de Moscou.
Oui, absolument. Ouais. La comparaison peut être faite. Ouais. Et d'ailleurs, Wajda, à mon avis, l'a fait de manière assez claire. De même, donc, les jurés ont été triés, les juges ont été manipulés, tant et si bien que la première journée d'audience, Robespierre convoque le vice-président du tribunal au comité, et ça c'est pas dit dans l'histoire, pour, à mon avis, on devine, le sermonner, lui dire que le verdict doit être sûr. Et il y a même eu trafic de l'histoire, puisque l'accusateur public, le terrible Fouquier-Tinville, est allé, lors de la délibération du jury, faire pression, parce qu'il y avait doute sur la condamnation de Danton. Et il y a eu la menace, et la menace a payé encore une fois.
En vous écoutant, Loris Chavanette, on a le sentiment que ce type de dictature, de procédure arbitraire, était finalement le prototype, on l'a dit, des procès de Moscou, mais aussi des procès sous Mao, de la révolution culturelle, ou des procès sous Goebbels et sous Hitler. C'était les mêmes mécaniques totalitaires terrifiantes, non ?
Mais Je sais pas si j'irai jusque là,
oui.
Mais je crois, pour développer sur ce terrain-là, que effectivement, les totalitarismes du XXe siècle, au nom de la démocratie, à Moscou, mmh. De même que l'hitlérisme, François Furet l'a démontré, le fascisme à partie liée avec voilà. le communisme sur de nombreux points, mmh. Bien que ce soit l'un est universaliste et l'autre est racialiste,
ouais, oui.
Mais il y a des convergences entre les fascismes, entre les totalitarismes. Et donc c'était nécessaire au XXe siècle de penser aussi la révolution comme un possible précédent dictatorial où l'idéologie mmh. Gouvernementale impose une espèce d'omerta dans toute la société.
Or,
Danton était celui qui incarnait non pas la dictature de salut public en l'an 2 et en l'an 3. Mmh. En l'an 2, c'était celui qui incarnait au contraire l'expression la liberté de la presse ou la mort.
Alors, on va tirer les conclusions de tout ça pour aujourd'hui, mais avant, je voudrais vous faire entendre un dernier extrait sonore. On va rejoindre le film de Robert Enrico que vous évoquiez tout à l'heure, La Révolution française. On va écouter quelques instants consacrés à la mise en accusation de Robespierre, 3 mois après celle de Danton. Finalement, Robespierre se retrouve accusé.
Vous êtes des faibles et vous ne comprenez rien. La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention.
Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces 2 derniers mois que pendant ces 2 dernières années.
Moi, j'ai exécuté.
Oui, vous. Votre justice. Votre loi. Ou votre absence de justice.
Alors, souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton?
Il n'y a plus de procès. Il n'y a que des exécutions.
C'est un mensonge.
Vous avez placé vos propres hommes triés sur le volet à tous les postes clés.
C'est encore un mensonge.
Nous avons gagné, Maximilien. Une grande victoire. À Fleurus.
Mes ennemis s'en serviront, sans aucun doute, contre moi.
Mais il est temps de prendre nos responsabilités.
Il n'y a plus d'excuses pour les misérables tribunaux de Robespierre ou pour ses attitudes dictatoriales.
Puis-je suggérer que nous attendions que le citoyen Robespierre soit de retour parmi nous avant de le critiquer?
Ce comité est depuis trop longtemps. Exécutez ce que le citoyen Robespierre lui commandait.
Robespierre est un membre de ce comité, rien d'autre. Comme vous. Et vous.
Robespierre n'est pas la République.
Vous tourneriez pas par hasard à la modération, l'un des.
Et comparé à vous, citoyen, même un chien enragé aurait l'air d'un modéré. Comparé à vous et à votre maître Robespierre, le bourreau lui-même est un ange de tendresse. Vous regretterez ces paroles, citoyen.
Voilà, Robespierre est aux abois, il va être condamné, il va être exécuté, et puis ça sera la fin de la terreur, Loris Chavanet. Je rappelle le titre de votre livre, Danton et Robespierre, le choc de la révolution aux éditions Passé Composé. Vous vous retrouvez dans cet extrait sonore?
Mais je me retrouve d'autant plus que j'ai essayé de raconter le supplice qu'a été celui de Robespierre, mmh. le dit Thermidor. Quand il est envoyé à la guillotine, il s'est donc raté sans doute en tentant de se suicider en se mettant une balle dans la mâchoire.
On ne sait pas bien si c'est un coup de feu d'un gendarme ou si c'est lui qui s'est suicidé.
Oh, je crois que il détestait le sang, les exécutions. Une fois, il croise le bourreau, il est tétanisé en croisant le bourreau Samson dans un bois.
Et pourtant, il a fait exécuter des milliers de gens.
Oui, mais il n'a jamais vu une exécution.
Voilà.
Et d'ailleurs, il s'est toujours enfermé. Les grandes journées révolutionnaires, il est toujours enfermé à double tour chez lui, volé fermé mmh. chez les Duplé. Mais Robespierre, effectivement, le dit Thermidor marche à l'échafaud ensanglant. C'est pour ça que certains y ont vu un Christ souffrant, mais mmh. c'est bien sûr abusif. Et il chute. Et là, on entend un extrait aussi de sa chute pas prononcée par la Convention nationale. Il est mis hors la loi et il n'a pas de procès. Il a juste une reconnaissance d'identité pour Robespierre.
Pas plus que ses adversaires n'en avaient eu.
Ben lui, pour le coup, il a eu encore moins de droits.
Oui.
Mais c'est lui qui avait supprimé les droits de la défense au final. Donc il est victime de ses propres mesures. qui lutte par l'épée périt par l'épée. Voilà. Si on retrouve cela dans la Bible, je crois. Et Robespierre est envoyé à l'échafaud et il comprend très vite que la fronde parlementaire des Thermidoriens contre lui, c'est la vengeance de Danton. Et à un moment, il a du mal à parler à la tribune et le gendre qui avait demandé, on a entendu l'extrait tout à l'heure, que Danton soit entendu à la tribune, le gendre lui dit c'est le sang de Danton qui t'étouffe, parce que Robespierre a du mal à parler. Et Robespierre comprend, et c'est dans les archives, Robespierre répond c'est donc Danton que vous voulez venger, et il marche à l'échafaud, et c'est quasiment le fantôme de Danton qui lui hache la tête.
Alors, Loris Chavanet, maintenant, il nous reste une poignée de minutes. Je voudrais demander à l'historien que vous êtes de faire un peu un mouvement de zoom arrière. On a parcouru avec vous les principales étapes de la Révolution à travers les deux acteurs que vous avez su magistralement mettre en scène dans votre livre Le choc de la Révolution, publié aux éditions Passé Composé. Mais on a quand même envie de vous demander aujourd'hui, en tant qu'historien, peut-on dire que toutes les révolutions ont conduit leurs acteurs à s'entre-dévorer, comme on vient de le voir là? Que dites-vous de ce constat?
Ce constat est une constante. Comme le disent les Girondins, la révolution, comme Jupiter, dévore ses propres enfants. Et ça a été le cas de toutes les révolutions. Ce qui est intéressant, c'est que c'est assumé comme violence. Ce n'est pas une violence qu'on met de côté. Elle est réalisée au nom de la vertu, au nom du peuple, voire au nom de l'être suprême, parce que l'être suprême prôné par Robespierre, c'est le dieu d'amour, mais c'est aussi le dieu vengeur, l'épée à la main, qui terrorise les adversaires au lieu de proclamer véritablement une paix universelle. Mais effectivement, les révolutions sont violentes. Le XXe siècle l'a démontré de manière encore plus sanguinaire.
À une échelle beaucoup plus industrielle, si on ose dire.
Industrielle, mais aussi des massacres, des bains de sang avec des exterminations de populations de masse. Mais ça a été pratiqué sous la Révolution. Si on prend en Vendée les massacres, les noyades, ce qu'on appelait les mariages républicains perpétrés par Carrier, envoyé à Nantes.
Oui, les noyades républicains, les baptêmes républicains, c'était ça.
On les appelait les mariages républicains, les baptêmes républicains. Voilà. On emmenait pour vider les prisons, au lieu de faire les procès, on emmenait les prisonniers au large de la Loire et on les coulait dans les bateaux, mais par centaines, nuitamment, la nuit. Voilà, de même à Lyon, on a ouvert la mitraille, Fouché a ouvert le feu sur des centaines de personnes attachées les unes aux autres. Voilà. Bon, bref, il y a, je dirais pas des crimes contre l'humanité parce que je verse pas dans cet anachronisme, mais il y a une violence, une radicalité qui fait toujours polémique la Révolution française. Mais c'est important de l'interroger, bien qu'il faille pas, je pense, placarder des idées d'aujourd'hui sur l'époque. La France était aussi en guerre, mais il y a une idéologie tout de même.
Mais on peut s'interroger quand même. Alors, autre question, Loris Chavanet, je le disais en ouverture de notre conversation, vous êtes un historien de la Révolution, mais aussi du Premier Empire. On voit que notre Révolution française a abouti à un régime autoritaire. Encore une fois, je vous demande un effort pour faire un zoom arrière. Peut-on dire que les révolutions aboutissent le plus souvent à des régimes autoritaires, Loris Chavanet?
Il y a cette formule, je citerai encore un haut personnage de l'histoire que vous amenez, Napoléon. Napoléon qui dit dans le mémorial de Sainte-Hélène, ce sont les avocats qui commencent les révolutions, mais ce sont les militaires qui la finissent. Et donc effectivement, Napoléon incarne cette manière personnelle, c'est-à-dire la personnalisation de l'action publique, de terminer les guerres civiles. Parce que qu'est-ce qu'une révolution? C'est une guerre civile.
Voilà.
Qui a terminé la guerre civile de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ? C'est César.
Oui.
Par une personnalisation du pouvoir, du régime, tant et si bien qu'on l'a assassiné. Mais c'est pareil avec Napoléon. Il y a un césarisme, mais il est démocratique. César était populiste à sa manière, en faisant des fêtes dans le Colisée. De même, Napoléon, lui, il y a un césarisme démocratique parce que plusieurs plébiscites le portent au pouvoir, le portent au nu, et à chaque fois, il remporte avec 90%. Bon, il n'y a pas d'opposition.
Mais peut-être le peuple était-il fatigué?
Oui, il était lassé.
De ces années de révolution, de sang versé, d'inquiétude, de dénonciation.
Oui, alors, mais personnalisation du régime, si vous permettez, effectivement par Napoléon, mais Bonaparte réussit à réconcilier aussi les Français. Il rappelle les émigrés, il fait la paix avec Rome, il arrive à terminer la Révolution française.
Il maintient la vente des biens nationaux.
Il maintient
ce
la bande d'être bien
tout le monde,
voilà.
En fait.
La classe bourgeoise voilà. est encouragée à, à continuer à s'enrichir parce que désormais c'est la propriété et non plus la race ou la naissance qui fait la place dans la société.
Et nous en sommes encore là aujourd'hui.
Et nous en sommes encore là avec, on l'espère aussi, le talent.
Alors, toute dernière question, Loris Chavanet, toujours dans une perspective historique, vous écrivez dans votre livre, dès son explosion, la révolution a quelque chose de franchement bicéphale. Et on voit bien que encore aujourd'hui, nous vivons une tension entre la démocratie participative et la démocratie directe d'une part et la démocratie représentative. Cette dernière étant la vieille démocratie où nous élisons des élus qui parlent en notre nom. Et aujourd'hui, on sent une aspiration à une démocratie plus directe, plus participative. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle entre la révolution d'hier et les tensions d'aujourd'hui, Loris Chavanet ?
Mais je crois qu'il y a toujours cette rivalité entre deux aspirations démocratiques différentes.
Oui.
La démocratie indirecte et celle conçue par 89.
Voilà.
Il y a une représentation du peuple. Et puis à partir de
on
là,
la
souveraineté est nationale.
Elle est déléguée. Également.
Elle est déléguée voilà. et c'est le fait majoritaire qui l'emporte. Mais le fait majoritaire, il faut bien comprendre que la démocratie représentative n'existe que par la délibération des députés.
Absolument.
Il faut qu'ils aient le temps de débattre, que la raison, la vérité émerge. Après des navettes entre l'Assemblée, débats, réflexions dans des conseils, des comités.
Et face à cela, une autre vision de la démocratie.
Face à cela, une vision qui existe toujours en France par la pratique du référendum, même si elle est, j'allais dire, tombée en désuétude quasiment, notamment depuis que le référendum
certains
sur la Constitution
de leur vœu, mais de leur vœu aujourd'hui
n'a même pas été respecté, la décision du peuple français. Donc, je pense que le référendum est promis un bel avenir parce que c'est autant l'émotion qui va être porté au nu avec la démocratie directe que le cheminement intellectuel et la France garde toujours cette notion d'esprit de république une et indivisible, mais dans la réalité c'est beaucoup plus complexe.
Un tout dernier mot en quelques secondes, Loris Chavanet, vous qui êtes historien, quand vous avez vu les gilets jaunes, vous vous êtes dit tiens, de nouveau les sans-culottes?
Je me suis dit, tiens, de nouveau, la violence dans la rue. Mais pour cela, on est quand même habitué en France. Hein, le CPE, il y a eu de la violence. Ce que j'ai retrouvé avec la révolution, c'est la contestation des élites, des classes dirigeantes. Il y a sans doute une fracture, mais est-ce que la meilleure manière, c'est d'englober les classes dirigeantes dans une élite qui serait une et ennemie? Voilà. Je crois que c'est assez démagogique, même si la crise sociale...
Allez.
Fait émerger des contestations depuis toujours.
Il faut continuer à se parler, si je vous entends bien. C'est ce que nous avons fait avec vous. Un grand merci, Loris Chavanet. Un grand merci pour votre livre « Danton et Robespierre, le choc de la Révolution ». C'est aux éditions Passé Composé. Ça se lit comme un roman. C'est absolument passionnant. Un grand merci à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur. Vous pouvez retrouver cette émission, les références des livres de Loris Chavanet, sur le site de RCF. Et surtout, vous pouvez nous écouter en podcast, en balado-diffusion, quand vous voulez, où vous voulez. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.